Bonjour, bienvenue, il est 14h temps universel, 15h ici à Paris, 16h à Gaza.
Charlotte Hydrac.
Et à la une de ce journal, le feu vert du cabinet de sécurité israélien à l'accord de trêve à Gaza. Les premières libérations d'otages sont attendues dimanche. Vers une nouvelle conférence internationale pour la reconstruction du Liban. Conférence à Paris, appel d'Emmanuel Macron en visite à Beyrouth aujourd'hui pour soutenir le nouveau chef de l'État, Joseph Aoun. À suivre aussi après les incendies, le risque de glissement de terrain à Los Angeles, aux États-Unis. Le plan économique du Mexique face aux menaces de hausse des droits de douane de Donald Trump. Et puis en France, objectif fin mai pour un accord sur la réforme des retraites. C'est ce que souhaite François Bayrou au premier jour des concertations entre partenaires sociaux. Oui, c'est acté officiellement. Le cabinet de sécurité israélien donne donc son feu vert à l'accord de trêve avec le Hamas. Le cessez-le-feu entrera en vigueur dimanche dans la bande de Gaza pour mettre un terme à 15 mois d'une guerre sanglante. Cet accord permettra aussi la libération de certains otages israéliens et de détenus palestiniens. Sami Bourlifa, on vous retrouve en direct de Jérusalem. C'est maintenant au gouvernement israélien, c'est ça, d'approuver cet accord ?
Une simple formalité, le plus dur est fait. À partir de là, donc, arrêt des combats effectivement au sol et surtout des bombardements israéliens meurtriers dans moins de 48 heures. Cet accord prévoit durant sa première phase la libération de 33 otages israéliens sur un total de 98 personnes encore captives. La liste des 33 premiers libérables a été publiée aujourd'hui. 2 enfants, 10 femmes, les autres sont des hommes. On ignore tout de leur état de santé et s'ils sont morts ou toujours en vie. Israël doit libérer en contrepartie 1 millier de détenus palestiniens. Les critères de l'État hébreu pour la libération de ces prisonniers ont également été révélés. Les renseignements israéliens mettent leur veto sur la libération des dirigeants palestiniens les plus importants. Ils préconisent de relâcher les détenus âgés et ou souffrant de maladies graves. Et enfin, la libération des Gazaouis emprisonnés après le 7 octobre 2023, mais non impliqués dans l'attaque du Hamas. Les Palestiniens accusent Israël d'avoir arrêté des milliers de civils Gazaouis de manière préventive pour en faire une monnaie d'échange en prévision de cet accord. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu sera accompagnée d'une entrée massive de l'aide humanitaire, 600 camions par jour, soit autant qu'avant la guerre.
Sami Bourlifa en direct de Jérusalem sur la liste des otages libérables dont vous parlez donc a priori à partir de dimanche figurent notamment les 2 otages franco-israéliens. C'est ce qu'a affirmé le président français Emmanuel Macron en visite en ce moment au Liban, déplacement express mais dans à Beyrouth. Le président français a notamment rencontré son homologue libanais Joseph Aoun au palais présidentiel. Paul Ralifé, vous suivez ce déplacement à Beyrouth. Lors d'une déclaration commune, Emmanuel Macron a annoncé l'organisation à Paris dans les prochaines semaines d'une conférence internationale de soutien au Liban.
Oui, Charlotte, Emmanuel Macron a expliqué que cette conférence sera organisée à l'occasion d'une visite de Joseph Aoun à Paris et sera consacrée à la reconstruction du Liban après la guerre dévastatrice avec Israël. Dans ce contexte, le président français a rendu hommage lors de cette conférence, lors de cette déclaration, aux milliers de victimes de ce conflit qui a fait 4000 morts et plus de 16000 blessés. Il s'est dit optimiste sur l'application du cessez-le-feu et a parlé d'une dynamique positive sur ce plan. Il a aussi appelé au retrait total de l'armée israélienne du sud du Liban et insisté sur le fait que seule l'armée libanaise devrait être autorisée à détenir des armes. Emmanuel Macron a affirmé que la France œuvrera pour la délimitation de la frontière terrestre avec Israël. Le Liban revendique 13 points sur la ligne bleue tracée en l'an 2000 lors du retrait israélien du Liban. Une réunion élargie a eu lieu au palais présidentiel en milieu d'après-midi entre les présidents français et libanais, le premier ministre sortant Najib Miati et chef du Parlement Nabih Berri. La rencontre a une importance particulière. Nabih Berri, qui est le plus haut dirigeant politique chiite de l'État, craint en effet une marginalisation de sa communauté après les changements des rapports de force au Liban et en Syrie. Et il hésite à participer au gouvernement en gestation.
Paul Ralifet en direct de Beyrouth pour cette visite donc du président français. Le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, lui, est à Damas aujourd'hui. Karim Khan, selon le média d'État, a rencontré le nouveau dirigeant syrien. Un nouvel élan à l'alliance Russie-Iran, c'est l'objectif du pacte stratégique qui doit être signé aujourd'hui entre le président Vladimir Poutine et son homologue iranien Masoud Pezeshkian. Accord qui doit couvrir plusieurs domaines, y compris militaires. Son contenu n'a pas été rendu public. Et puis en Russie, encore 3 ans et demi à 5 ans et demi de prison. 3 avocats de l'opposant Alexei Navalny, mort en détention il y a près d'un an. Ses avocats ont été condamnés à des peines de prison ferme. Tous reconnus coupables d'extrémisme. Parmi les réactions, celle du Royaume-Uni. Pour Londres, les autorités russes continuent, je cite, d'écraser toute dissidence. L'Union européenne annonce de nouvelles mesures techniques pour approfondir son enquête sur le réseau social X, la plateforme soupçonnée de manipuler le débat public dans plusieurs pays européens, notamment en Allemagne, où Elon Musk a pris fait et cause pour l'extrême droite, et cela en pleine campagne électorale. Le chancelier allemand Olaf Scholz a dénoncé aujourd'hui une menace pour la démocratie. Il va falloir être patient pour les sinistrés des incendies. À Los Angeles, dans l'ouest des États-Unis, les pompiers ont commencé à contenir les méga-feux qui ont fait au moins 27 morts. Mais des dizaines de milliers d'habitants évacués vont devoir attendre au moins une semaine pour rentrer chez eux, selon les autorités locales, notamment face au risque de glissement de terrain. C'est un phénomène favorisé par les incendies. Et la menace est prise au sérieux, hein, Simon Rosé. 2 millions de personnes en Californie du Sud sont exposées.
Oui, alors que les feux brûlent toujours, des dizaines d'agents de l'Office américain des forêts sont mobilisés sur les collines autour de Los Angeles. Là où la terre est désormais à nu, ils récoltent les données pour cartographier ce risque. Après des incendies, le danger pour la population est en effet toujours là. Les sols brûlés sont durs comme de la pierre, ils ne peuvent plus absorber d'eau. Et les prochaines pluies font peser un risque qualifié de quasi certain d'inondation et de glissement de terrain dans une région avec beaucoup de relief. Sans végétation, sans racines pour contenir l'eau, d'énormes coulées de débris peuvent se former. Un phénomène destructeur qui charrie tout sur son passage, sol, roche, tronc calciné. Los Angeles, de par sa vulnérabilité aux incendies et son relief, est qualifié de capitale mondiale en la matière, car le cycle incendie puis inondation, il est bien connu, il est bien documenté. Les scientifiques mettent cependant leurs modèles à jour. En raison du réchauffement climatique, les cartes sont rebattues, les feux sont plus gros et brûlent plus fort, les pluies sont quant à elles plus fréquentes et plus intenses, à tel point que, comme vous le disiez, on estime qu'aujourd'hui, que 2 millions de personnes de la région vivent dans des zones à risque.
Et la situation sera suivie dès lundi prochain par la nouvelle administration américaine, en vue de l'arrivée du retour de Donald Trump donc à la Maison-Blanche. En vue de ce changement, les partenaires commerciaux des États-Unis se préparent. Donald Trump a promis d'augmenter les droits de douane sur les produits chinois notamment. Il menace de faire la même chose sur les produits mexicains. Alors face à cela, la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a présenté cette semaine un vaste plan économique, Justine Fontaine, pour les années à venir.
Oui, devant des dirigeants des plus grandes entreprises du pays, Claudia Sheinbaum assure que le Mexique est prêt à faire face au retour de Donald Trump, sans jamais citer son nom directement.
Face à l'incertitude qui pourrait advenir dans un futur proche, le Mexique a un plan.
Ce plan prévoit d'ici la fin de la décennie de moins dépendre des produits chinois en fabriquant à 50% au Mexique dans des secteurs comme le textile ou l'ameublement. Il prévoit aussi de former plus d'ingénieurs ou encore de diviser par 2 la durée des démarches pour les entreprises qui veulent investir au Mexique.
Nous avons des objectifs ambitieux, comme passer de la 12e place à la 10e dans l'économie mondiale.
Mexico espère bénéficier de relocalisation sur son sol si Donald Trump met à exécution ses menaces de protectionnisme contre la Chine. Mais le gouvernement mexicain craint dans le même temps que le président élu décide de revenir au moins en partie sur le traité de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, ce qui pourrait fortement pénaliser l'économie mexicaine, très dépendante de son voisin du Nord.
Justine Fontaine. En France, le coup d'envoi des concertations entre gouvernement et partenaires sociaux sur la réforme des retraites. Une première réunion s'est s'est tenue en fin de matinée. Le Premier ministre a promis de remettre ce texte contesté en chantier. François Bayrou a fixé l'objectif d'un accord d'ici à la fin mai. Et puis en France encore, l'horreur exprimée par la conférence des évêques de France après les nouvelles accusations de violences sexuelles visant l'abbé Pierre est publiée en début de semaine. Le président de la conférence des évêques a annoncé ce matin avoir saisi la justice pour ouvrir une enquête sur les agissements du prêtre, longtemps figure iconique pour l'heure. L'abbé Pierre est visé par 33 témoignages d'agressions sexuelles.